Bienvenue dans 100 ans de cinéma et des poussières sur Prune. Tout de suite, retrouvez Alexis et son invité pour une heure de discussion autour d'une thématique de cinéma.
Et oui, bonjour et re-bienvenue dans 100 ans de cinéma, 100 ans de cinéma et des poussières qui revient sur l'ensemble de l'histoire du cinéma. Mais petit bout par petit bout, plutôt thématique par thématique, chaque mois, donc de 13h à 14h, le deuxième samedi du mois. Donc c'est aujourd'hui que nous recevons un nouvel invité qui est avec moi dans les studios et que je salue. Bonjour Anthony Poirodeau.
Bonjour Alexis.
Et merci beaucoup d'être présent avec nous. Anthony, tu es écrivain et tu as, alors on va en parler tout de suite, mais tu as choisi comme thématique pour l'annoncer aux auditeurs, la thématique du cinéma du réalisateur allemand bavarois Werner Herzog.
Et oui.
Alors, large sujet, hein, puisque il a fait 73 films depuis le milieu des années 60, des films documentaires, des films de fiction, des films un peu entre les deux, la plupart du temps d'ailleurs, des courts, des moyens et des longs métrages. Il a même fait une série documentaire. Il est même acteur, hein, faut pas l'oublier, et on en parlera sûrement un petit peu. Et c'est un peu une figure comme ça, hein, Werner Herzog. Donc on va revenir sur lui, sur sa relation de travail tumultueuse avec Klaus Kinski et d'autres acteurs ou actrices marquants. Plutôt, Anthony, pour te présenter aux auditeurs qui peut-être ne te connaîtraient pas. Donc tu es écrivain et journaliste, blogueur.
Oui, alors ça c'est la manière dont le site et de mon éditeur des éditions Inculte me présente. Ouais. Je suis plus tellement blogueur, mais avant d'être un écrivain publié dans des livres et des revues papier, mon terrain d'écriture était plutôt sur blog et revues en ligne, etc. Okay. Que je renie pas du tout, mais qui n'est plus tellement d'actualité. Oui. Mais par ailleurs, je suis prof en école d'art.
Oui.
Mais...
Professeur de quoi ?
De littérature et d'écriture, à l'école des beaux-arts de Clermont-Ferrand.
D'accord. Et donc, tu es surtout quand même écrivain et tu as sorti deux livres depuis une dizaine d'années. Le premier s'appelle Projet El Posero, qui date de 2013 et les deux ont été édités par les éditions Inculte.
Absolument.
Et ce premier livre, donc sorti en 2013, vient tout juste d'être réédité en format à poche par cet éditeur. Ce livre, Projet El Posero, c'est donc un livre qui parle d'une ville fantôme, finalement, de la crise économique espagnole, enfin, une crise économique mondiale, mais avec sa traduction espagnole. Et c'est un livre qui aborde des thématiques qui, visiblement, te sont chères, à savoir la carte et le territoire, quoi, quasiment.
Oui, oui. C'est effectivement un livre qui porte sur... sans faire trop long, hein, sur ce phénomène qui a été pas mal relayé, documenté dans les médias. Quand la crise économique de 2008 a éclaté, qui a plongé le monde entier dans une crise économique et sociale très, très lourde, elle avait une spécificité en Espagne qui a été très, très durement frappée par cette crise, d'avoir un aspect architectural, un aspect urbain et immobilier. Parce que l'économie espagnole a tourné à plein régime toutes les années 2000 par la surproduction immobilière. On construisait des immeubles et même des villes entières. Mmh. Et c'était une bulle spéculative qui a éclaté. Et quand elle a éclaté, on a eu plein de quartiers, voire de villes entières, toutes neuves, plus ou moins finies, et plus ou moins, voire plus que moins, désertes.
Ouais. Et c'est un livre passionnant et qui est donc à nouveau disponible. Puis ce deuxième livre, donc Churchill Manitoba, qui est sorti lui en 2017, aux éditions Inculte. Cette fois-ci, alors on retrouve un peu une thématique puisque tu vas sur place, c'est une sorte de reportage quelque part, un reportage littéraire. Tu vas sur place dans une ville qui a une spécificité, donc que ce soit une ville déserte et neuve pourtant, ou une ville un peu plus ancienne. Mais très peu habité et surtout aux confins du Canada et finalement du cercle arctique. Comme son nom l'indique, ça se passe à Churchill, qui est une ville du Manitoba.
une petite ville tout au nord de la province canadienne du Manitoba, ouais, aux portes de l'Arctique. Oui, mais ça me permet de répondre un peu plus précisément à ta question précédente sur la question de la carte et du territoire, ouais. Parce que c'est un livre qui s'articule beaucoup avec la question de la carte. En fait, c'est une petite ville du Grand Nord canadien que j'ai longtemps connue par la contemplation d'une vieille carte d'Amérique du Nord qu'on m'avait offerte. Et puis, c'était vraiment un point d'évasion, mais de rêverie, de pure rêverie. Mmh. Et et une sorte de refuge mental, vraiment de se réfugier dans la rêverie sur la carte. Comme une espèce d'introspection un peu mélancolique. Et puis, à un moment, je me suis dit que ça pouvait être un sujet d'écriture quand même assez intéressant d'aller voir qu'est-ce que c'est que la réalité de ce lieu sur lequel j'avais longuement rêvé. Sans du tout envisager d'y aller. Et puis un jour, je me suis dit, bon, ben, en fait, la réalité de ce lieu, c'est quoi? Et puis de faire, c'est un peu, pas s'interpénétrer la rêverie et la réalité, mais de faire circuler le texte entre ces deux polarités-là. Et effectivement, comme la ville fantôme espagnole, c'est des contextes totalement différents, mais c'est un peu des endroits à l'écart. Mm-hmm. Voilà. Donc il y a quand même ce point commun, et puis ces espaces un peu où le temps s'écoule différemment, où le temps se remplit. Plus difficilement d'une certaine manière pour les humains et la société humaine, mmh. qui soit s'est absenté ou soit s'est jamais venu, soit peut pas vraiment s'implanter, quoi. Mmh.
Mmh. Et alors, y a des liens, hein, bien entendu, entre ton œuvre et celle de Werner Herzog. Et moi, ce que j'ai apprécié notamment, bah, c'est, enfin, l'un des liens principaux, peut-être, c'est que sur la partie documentaire, en tout cas, de Herzog, c'est que finalement, c'est raconté donc à la première personne. Et donc, il y a ce personnage d'Anthony Poirot qui ressort finalement des textes, un peu comme le personnage d'Herzog ressort de ses films documentaires, mmh. où finalement ces films eux-mêmes sont à la première personne. Donc. Il y a cette volonté, voilà, de se confronter à un paysage, à une ville, hein, en l'occurrence. Mais les personnages ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque tu as l'air de te présenter comme quelqu'un d'un peu plus casanier, on va dire, alors que Herzog a l'air d'être plutôt quelqu'un qui aime les grands espaces, aime se confronter vraiment à la nature, quitte à se mettre un peu en danger même. Enfin, on verra ça au fil de ses films. Et donc, c'est intéressant justement de voir ce parallèle entre les deux. Il faudrait qu'il adapte un de tes bouquins au cinéma, ça serait parfait. Herzog, donc, c'est quelqu'un qui est important, qui t'intéresse, dont le cinéma te plaît. Voilà. Et ça sera notamment l'occasion de confronter ta vision de ce cinéma lors d'une soirée, puisque tu es l'invité donc, du festival Bifurcation,
ouais,
qui devait avoir lieu en novembre dernier, donc qui a été repoussé, bien
on
entendu.
On sait pourquoi.
Et qui doit avoir lieu début juin.
Ouais, alors je vais le dire sous réserve. Il avait donc le festival Bifurcation, la sixième édition de ce festival qui est organisé par une association nantaise qui s'appelle La Tangente, devait avoir lieu en novembre dernier. Bien sûr, il n'a pas pu avoir lieu. Il a été reprogrammé début juin. Donc je donne les dates que j'ai plus exactement en tête. Le premier week-end de juin.
C'est enfin, du 2 au 6.
Du 2 au 6 juin, voilà, pardon. Au 6 juin, je dois le dire au conditionnel parce que autant les théâtres sont autorisés à rouvrir, on ne sait pas encore exactement combien de personnes ils peuvent accueillir.
Ouais.
Donc s'ils ne peuvent pas accueillir beaucoup plus de personnes que l'équipe et les invités, on devra envisager un report, mais on est encore en attente de savoir si ça va avoir lieu ou non début juin. Le mieux pour le savoir, c'est d'aller d'ici là consulter le site internet le festival trait d'union bifurcation au pluriel.fr où les infos seront actualisées.
Très bien.
Et donc juste avant le week-end du festival, une association que tu connais peut-être Alexis qui s'appelle Accès au cinéma invisible,
ouais.
En partenariat avec le festival, va programmer une projection de deux films de Werner Herzog.
Voilà, deux films, donc ça sera le 2 juin, pareil, hein, au conditionnel, mais si c'est pas le 2 juin, ça sera en novembre prochain, et puis ça se fera un jour ou l'autre.
Ouais.
Et donc tu seras présent voilà, pour présenter ces deux films que tu as choisis dans la filmographie de Herzog, donc on peut les annoncer. Hein.
Oui, oui, tout à fait, parce que ça sur les films, c'est tout à fait arrêté. Deux films qui sont... plus ou moins connus, on va dire plutôt méconnus. Un premier, dans l'ordre chronologique, des années 70, qui est un film dont on va reparler, que j'aime énormément, de Werner Herzog, qui s'appelle « La grande extase du sculpteur sur bois Steiner », qui est un documentaire d'une quarantaine de minutes sur un sauteur à ski suisse-allemand. Et un deuxième film, qui est un film des années 80, que Werner Herzog avait réalisé pour la télévision, qui s'appelle Woda Abe, Les bergers du soleil, qui est un film qui se déroule dans, j'ai un trou de mémoire sur le pays africain dans lequel ça se déroule, je dirais le Niger, je crois que c'est le Niger, sur un peuple... nomades de cette région qui s'appellent les Woda Abe et qui ont un rituel annuel au cours duquel les hommes se font des parades avec des maquillages et un langage corporel assez extraordinaire et que Herzog est allé filmer dans les années 80.
Ouais, donc ce sera vraiment très chouette. Et puis donc tu seras présent pour présenter le film, puis il y aura une discussion après avec toi et moi.
Et oui.
Voilà, et vous, le public. Donc le 2 juin à Pollen, lors du festival Bifurcation du 2 au 6 juin, qui aura peut-être lieu. Voilà.
Ouais.
Pour revenir rapidement à Herzog, si vous ne le connaissez pas encore, Werner Herzog est donc un réalisateur allemand né à Munich, donc en Bavière, qui a commencé sa carrière il y a déjà un peu plus de 50 ans, qui, donc je vous l'ai dit, a fait beaucoup, beaucoup de films, des films très différents, et qui aujourd'hui est connu. C'est-à-dire, c'est une figure, une personne populaire, une figure connue, qui a aussi une personnalité particulière, vu qu'il se met en scène avec son accent allemand lorsqu'il parle en anglais ou autre. Et il est souvent parodié maintenant, et il se parodie aussi lui-même, et ça, c'est assez sympa. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a l'air très froid, très sérieux en tout cas, mais qui, par ses choix, par ses films aussi, montre qu'il a beaucoup d'humour et qu'il est prêt aussi à participer à des projets auxquels on n'aurait pas pensé. Très notamment, alors aujourd'hui, il est connu pour des films comme les films qu'il a fait avec Kinski, comme Fitzcarraldo, Aguirre, La colère de Dieu, les films qui l'ont remis sur le devant de la scène à partir des années 2000, avec Grizzly Man, Rencontre au bout du monde, qui lui a valu sa seule nomination aux Oscars pour le meilleur documentaire. Et puis, en fait, il est acteur également, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est le plus connu aujourd'hui. Mmh. Et donc, on l'a vu, par exemple, en grand méchant dans un film avec Tom Cruise qui s'appelle Jack Reacher, où il joue un ancien détenu du goulag soviétique. Et puis, plus récemment, il a quand même joué un rôle de méchant officier de l'Empire dans la série The Mandalorian, donc, qui est la série Star Wars qui cartonne actuellement. Et alors, il joue lui-même, hein, clairement. On lui a juste mis un costume d'officier de l'Empire, mais c'est parfait. Il était temps quand même d'y penser, un officier de l'Empire avec un accent allemand, puisque les références étaient quand même assez évidentes jusqu'ici. Et donc, peut-être qu'il est plus connu pour ça aujourd'hui. Il est devenu un peu, dans l'esprit du public, une caricature, mais il joue avec ça, et ça lui permet quand même de faire beaucoup de films. Il en a encore fait deux l'année dernière qui sont sortis. Et voilà, on va revenir sur sa filmographie. Juste après une courte page musicale et en parlant surtout voilà, de tes coups de cœur, de ton historique finalement avec son cinéma. On commence par Leonard Cohen sur la bande originale donc, de son film Fata Morgana, où il a utilisé plusieurs de ses chansons. C'est So Long Marianne et on se retrouve tout de suite après avec notre invité Anthony Poirodeau.
Come over the window, my little darling, I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began to lie.
well, you know that I love to live with you. But you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix. As we went kneeling through the dark, so long, Marianne. Time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. Your letters.
Le cinéma contre-attaque dans 100 ans de cinéma et des poussières.
De retour dans 100 ans de cinéma avec notre invité Anthony Poirodeau, donc qui est venu nous parler de sa passion pour le cinéma de Werner Herzog, qu'on a présenté déjà un petit peu. Rentrons dans le vif du sujet. On va aujourd'hui, je pense, évoquer quelques films comme ça très marquants de la filmographie du sombre bavarois et qui sont surtout marqués toi. Et puis, ouais. Alors, commençons par le film aussi, alors qui est marquant pour tout le monde, je pense, et qui a marqué finalement, voilà, qui a fait qu'on l'a connu un peu à l'international. C'est Fitzcarraldo, donc un film de 1982, enfin sorti en 1982, mais qui aura mis quand même 2 ans de tournage. Bien 2 ans.
Bien 2 ans.
2 ans dans la jungle. Donc, ouais. Qui est un film sur un Européen, donc qui s'appelle Fitzgerald, ou américain d'ailleurs, je ne sais plus.
Je ne sais plus, oui. Enfin, un colon. Ouais.
Un colon, voilà, ouais. Clairement. Qui, fin du 19e, début du 20e, veut implanter, en gros, un rêve. Il veut implanter un opéra dans la jungle amazonienne. Et pour ça, alors, de toute façon, on ne va pas faire tout le synopsis, mais en gros, pour ça, il a besoin de faire passer un bateau au-dessus d'une montagne, quasiment une montagne, pour le faire passer d'un fleuve à l'autre et pour ouvrir, en fait, une voie de commerce. Ce personnage est joué par Kinski, Klaus Kinski, donc acteur fétiche des débuts, donc de la première partie de la filmographie de Herzog, et acteur complètement fou, en vrai et aussi à l'écran, mais très marquant, un personnage très sombre, hein, avec une vraie part sombre, hein, quelqu'un de peu recommandable, mais dont Herzog a su tirer justement le meilleur à l'écran. Et donc, pour les besoins du film, ça montre aussi ce que c'est que le cinéma d'Herzog, ils ont vraiment fait passer un bateau au-dessus d'une montagne, et c'était vraiment très difficile, et c'était vraiment pas joué d'avance, et le film se jouait là-dessus aussi beaucoup. Ce film, tu l'as découvert peut-être pas en salle, j'imagine, tu devais être beaucoup trop jeune.
Non, effectivement. Je l'ai déjà vu en salle, mais très 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 longtemps après l'avoir vu la première fois. Je l'ai vu dans les années 2000, en DVD, hein, très, mm-hmm. très simplement. C'est pas le film par lequel j'ai découvert Werner Herzog. C'est d'ailleurs pas un de mes films préférés de Werner Herzog, mais c'est tellement un film emblématique, et c'était tellement un film central dans toute sa filmographie et un peu décisif dans sa trajectoire aussi, à certains égards, que c'est effectivement un incontournable. Je dis que c'est pas un de mes films préférés d'Herzog parce que je le trouve sans doute trop long, assez bancal, avec des vrais moments faibles. Et en même temps, c'est un film plein d'images, comme je pense tous les films d'Herzog ou presque tous les films d'Herzog ont à un moment des images comme ça, même ceux qui sont plus dispensables, si on veut, ont au moins tous des moments comme ça où il y a des images stupéfiantes.
Et puis peut-être que le film aujourd'hui est plus connu pour son making-of finalement, pour ce qui s'est passé sur le tournage, folie totale, les gros problèmes qu'ils ont rencontrés, un peu à la manière de certains autres films comme La Porte du Paradis, Apocalypse Now, etc., finalement, dont on se rappelle maintenant un peu plus pour ces anecdotes. Finalement, que pour le résultat final lui-même.
Ouais.
Bon, Fitzcarraldo se tient quand même. Mais...
Non, bien sûr. Non, mais je dis pas du tout que c'est un mauvais film.
Non.
certainement pas. Mais c'est effectivement ce qu'il faut aussi dire de ce film. C'est moi ce que je trouve très très frappant, mais ça dit beaucoup de choses du cinéma d'Herzog. C'est la proximité entre la situation de tournage et l'histoire que raconte le film. C'est-à-dire qu'Herzog, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas recourir aux effets spéciaux. Il veut filmer. Il veut filmer la réalité, mais plus que la réalité, il veut filmer quelque chose de sous-jacent à la réalité que lui se pose avec une grande immodestie, mais aussi une grande capacité à le faire, en voyant, en quelqu'un qui est capable de voir comme une vérité sous-jacente derrière la surface de la réalité commune. Et c'est ça qu'il veut filmer. Et donc... Il veut pas faire d'illusions, même s'il recourt à plein d'artifices, mais qui sont pas des artifices de l'ordre des effets spéciaux du cinéma, des artifices de montage, des artifices de musique, mais il veut vraiment montrer, et il est important que ça se produise sous le regard de la caméra, que cette réalité stupéfiante-là. Et donc, racontant l'histoire de ce personnage qui veut monter un opéra dans la jungle amazonienne pour y faire chanter Caruso. Mmh. Ça se passe au début du XXe siècle. Il veut entreprendre sous le regard de la caméra, des caméras, vraiment cette entreprise folle, quoi, de effectivement faire passer un bateau d'un fleuve à un autre. Et alors il dit une montagne. Bon, c'est pas vraiment une montagne, mais c'est
bien raide,
très très haute pente, très haute pente, très raide. Et c'est pas un canoë qui veut faire passer. Je veux dire, c'est un gros bateau.
Ouais.
Et donc, ça prend des mois. Et donc, ça demande d'amener des équipements, mais des équipements rudimentaires, parce qu'on est vraiment au fond de la jungle.
Et il faut que ça soit raccord avec l'époque de l'artifice.
Voilà. Il faut que ce soit raccord avec l'époque. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est des gens qui sont beaucoup... c'est aussi ça, ce qui est saillant dans toute une partie du cinéma d'Herzog, c'est qu'il a quelque chose de très démiurgique aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vraiment embarque des gens avec lui et qui fait travailler plein de gens à une sorte d'entreprise folle qui est la sienne. Donc, en gros, l'analogie entre Fitzcarraldo, qui est le personnage qui embarque des populations autochtones, une équipe un peu de bras cassés européens qui sont avec lui, et que voilà, et donc il faut faire passer le bateau par-dessus une montagne. C'est aussi l'histoire du tournage.
Ouais.
Et alors le tournage, il est extraordinairement compliqué pour une multitude de raisons. Pour des raisons de conflits locaux, pour des raisons de d'acteurs qui deviennent un peu dingues parce que peut-être ils sont un peu dingues au départ, mais aussi parce que les conditions de tournage n'aident pas à garder un état d'esprit un peu serein, parce que c'est un film qui a commencé à être tourné avec une distribution dont Mick Jagger et un acteur un acteur américain
Jason
qui s'appelle Jason Robards. Et puis, à un moment, il y a tellement de galères sur le tournage, Jason Robards devient à moitié fou et puis il contracte la dysenterie, etc. Mm. Mick Jagger n'est plus disponible parce qu'il doit partir en tournée. Et donc, il faut retourner le film avec un nouvel acteur, qui est Klaus Kinski, avec qui il avait déjà tourné plusieurs films, bien qu'ils aient eu une relation houleuse, c'est le moins qu'on puisse dire, extrêmement violente, en fait. Et donc, voilà, il faut retourner. Et en fait, il passe des années dans la jungle, mm-hmm. à porter à bout de bras ce projet auquel plus personne ne croit. Et lui-même, il y croit, comme il dit tout le temps, en dépit du bon sens, against my better judgment. Mm-hmm. C'est une expression qu'il emploie régulièrement, c'est-à-dire contre la raison. Contre la raison, il y croit, mais il doit préserver cette obstination à produire ça contre la raison. Et il y a un film documentaire, effectivement, qui montre ça d'une façon extraordinaire. Mm-hmm. Et moi, j'aime, en fait, plus le making-of que le film lui-même,
possible, oui.
Qui est un making-of réalisé par un documentariste qui s'appelle Les Blanc, qui a fait apparaître Werner Herzog dans plusieurs de ses documentaires, et qui s'appelle Burden of Dreams. Mm-hmm. Et on voit le tournage, et cela, c'est proprement extraordinaire.
Ouais. Ouais. Oui, bien sûr. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure d'Apocalypse Now. Moi, je trouve ça étonnant qu'il n'ait pas encore adapté, parce que peut-être il ne peut plus le faire vu que Coppola l'a fait, mais d'ailleurs, il a été en lien avec Coppola. Qu'il n'ait pas adapté Au cœur des ténèbres, puisque après tout, c'est souvent l'histoire de cette première partie de filmographie. On reviendra sur le. Notamment avec Aguirre. Il va s'identifier à ces personnages principaux joués par Kinski dans certains de ses films. Et il met en scène ce personnage, qui est un peu son alter ego, dans des entreprises démiurgiques, folles, aux confins de la Terre, face à la nature, mais qui sont toutes, à chaque fois, vouées à l'échec. Alors, heureusement, lui, il arrive à finir ses films, quand même. Ouais. C'est peut-être ça la différence. Mais il met en scène toujours l'échec, le ratage.
Oui, chez lui, là, quand il y a des grandes entreprises mégalomanes, elles finissent toujours en déconfiture totale.
Ouais.
Ça, c'est certain. Si ce n'est qu'effectivement, là, la similitude entre la situation de tournage et la... Et les histoires qu'il raconte, là, un peu, il y a une divergence, puisqu'il arrive à mener à bien ses films. Si ce n'est quand même que, dans le cas de Fitzcarraldo, il faudra qu'on parle de Kinski un peu plus en détail à un moment, parce que Kinski aussi cristallise tout ce qui est quand même un peu aussi compliqué à supporter d'une certaine manière dans le cinéma d'Herzog. Donc ça, je pense qu'on prendra un moment pour en parler. Ce film, il a réussi à le mener à bien, mais il a aussi un peu unanimement été considéré comme un échec. Mm-hmm. Il a finalement été très mal reçu. Et après ça, l'époque change, c'est-à-dire tu citais La Porte du Paradis, Apocalypse Now, Fitzcarraldo, etc. Après, on est au début des années 80, au moment de la sortie de Fitzcarraldo, et ces grands tournages impossibles, incertains, extrêmement dangereux, l'époque ne les permettra plus guère dans les années 80. Et aussi, Herzog, à un moment, son temps est passé à ce moment-là, du point de vue du public, du point de vue des producteurs, etc. Son temps va revenir, on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais à ce moment-là, son temps est passé. Donc, d'une certaine manière, il parle, parce qu'il y a un autre, avec Fitzcarraldo, il y a quelque chose aussi, moi, qui m'a beaucoup passionné, c'est le journal de tournage qu'il a tenu, qui a été publié longtemps après, sous le titre, traduction française, Conquête de l'inutile.
Hero Berung des Nutzlosen. Voilà.
Exactement. Conquête de l'inutile, c'est une traduction très, très fidèle du sens de ce titre.
Qui a été édité donc, aux éditions Capricci en France.
Ouais. En édition Capricci il y a 10-12 ans. Ce qu'il dans ce journal et puis dans le documentaire Burden of Dreams, le making-of, ils parlent vraiment d'une damnation de la jungle, quoi, qu'ils arrivent avec en voulant vraiment conquérir quelque chose, avec ce que ça comporte de violence aussi, et que la jungle se défend, et elle se défend très durement, et qu'elle leur en met plein la tête.
Voilà, la nature se laisse pas faire.
Elle se laisse pas faire du tout. Et la vision de la nature d'Herzog aussi est assez passionnante, hein, parce que c'est pas du tout une vision harmonieuse de la nature, c'est pas une vision pacifiée de la nature, c'est vraiment c'est le règne du chaos. Et donc ils sont dans la manière dont Herzog voit les choses, ils sont vraiment en plein chaos. Et donc d'une certaine manière pendant longtemps, il s'en est peut-être pas remis. Donc là, l'échec de Fitzcarraldo, c'est peut-être là aussi que la similitude entre l'histoire du film et l'histoire de sa réalisation, de sa production, est la plus proche. C'est peut-être là aussi qu'il y a un statut, une situation, c'est un cas très particulier dans le cinéma d'Herzog, hyper emblématique.
Et
dans sa démesure aussi.
Oui, bien sûr. Et alors, à noter que donc tu as écrit un texte qui s'appelle Le délire de la jungle, qui est paru dans la revue La moitié du fourbi, c'est en 2015.
Ouais.
Voilà, c'est un texte sur la conquête de l'inutile, sur le livre édité à partir de ses carnets, voilà, qu'il a écrit tout petit et qu'il avait du mal même lui-même à relire parce qu'il trouve que c'est important, mais c'est peut-être un peu trop dur pour lui.
Oui, mais ça c'est quelque chose que je relirai. Je ne vais pas paraphraser ce texte dans cette revue qui est une revue qui m'est chère, La moitié du fourbi, une revue littéraire qui sort deux fois par an. Mais là, se rejoue quelque chose là-dedans dont on parlera peut-être quand on parlera, je sais qu'on va parler un peu plus tard d'un autre film qui s'appelle L'énigme de Kaspar Hauser, mais où il y a aussi dans cette recherche de Herzog d'aller filmer, montrer, faire sentir une espèce d'arrière-monde primordial ou transcendant, ou on peut l'appeler de plusieurs manières, et que ce monde il n'est pas directement accessible et qu'il faut des visions pour le voir. Et dans ses carnets de journal de tournage écrit tout petit, c'est aussi parce que il contient plein de visions, ce carnet, et c'est comme si il fallait les garder et les laisser les protéger d'une certaine manière, et donc les garder presque cachées, comme si elles pouvaient un peu passer, mais comme si elles étaient tellement puissante, tellement presque insoutenable, que on veut les voir, mais il faut vraiment qu'on les voit que par comme un petit trou de souris, quoi. C'est un éclat qu'on peut voir, sinon on serait brûlé par le soleil, quoi.
Exactement. Justement, alors, son rapport à la nature, passons à un autre film. C'est le premier d'ailleurs qui, a priori, que tu as vu de lui, quelques années après, et qui est un film qui, en 2005, va vraiment marquer son retour, le retour d'Herzog au premier plan. Alors là, c'est un documentaire, un documentaire avec un personnage central. Et ce documentaire s'appelle Grizzly Man, tourné aux États-Unis.
En Alaska.
En Alaska, voilà.
Un peu en Californie, mais en Alaska surtout.
Et puis, c'est surtout l'histoire donc, de Timothy Threadwell, qui était un passionné de grizzly, en l'occurrence, qui se voyait comme quelqu'un en osmose totale avec la nature, à tel point que, alors effectivement, c'était sûrement quelqu'un qui s'y connaissait bien et qui arrivait qui connaissait bien les grizzlies et qui pouvait s'en approcher et qui filmait en fait ses rencontres avec les grizzlies pour en faire des films à vertu éducatif, hein, pour les classes, quoi. Mais qui est parti dans un délire dangereux où il s'identifiait aux grizzlies, il se croyait un peu leurs amis, il croyait avoir en fait finalement adopté un peu la nature, ou l'inverse. Et la conséquence a été absolument dramatique, puisqu'il a fini bouffé par un grizzly. avec en plus son ami, son ami de l'époque qui elle avait rien demandé, donc ça c'est d'autant plus tragique et limite criminel puisque c'est voilà, il est pas du tout responsable, enfin
il était dans une irresponsabilité
oui. Voilà, c'est ça. Et Herzog donc récupère en fait des films tournés par Threadwell pour et donc construit son film autour de ces images pour ensuite lui-même se mettre en scène et finalement un petit peu s'associer à ce personnage.
S'associer, se confronter en même temps. En effet, c'est le premier film de Herzog que j'avais vu, que j'étais allé voir en salle à sa sortie. Herzog, j'avais beaucoup entendu parler de lui, enfin beaucoup. Quelques fois entendu parler de lui, et ce que j'avais entendu dire était très, très fascinant. Mais ça dit ça aussi pas mal de choses de Herzog, c'est que c'est quelqu'un dont le cinéma est pris dans des histoires, mais des histoires dont il est beaucoup lui-même le propagateur, et dans son cinéma documentaire notamment, mais comme tu le disais un peu, tu l'évoquais tout à l'heure, ce qui est aussi très intéressant entre son documentaire, son cinéma documentaire et son cinéma de fiction, c'est que il y a une dimension documentaire dans sa fiction et sa approche du documentaire est une approche du documentaire où il est lui-même extrêmement interventionniste.
C'est très poreux.
C'est très poreux entre les deux. Et Herzog ne considère pas du tout qu'il doit filmer le monde comme si il n'était pas là pour le comme si il n'était pas lui-même là pour le filmer. Mm-hmm. Il vient filmer son intervention dans le monde et le monde qui réagit à son intervention et qui est pas une intervention douce en général.
Oui.
Après, il a différentes manières d'avoir des interventions pas douces. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, à minimum, met les pieds dans le plat et transforme la situation, les situations auxquelles il est mêlé. Et donc, oui, il récupère par une société de production qui lui propose ce film des dizaines d'heures de tournage, d'images vidéo de ce Timothy Treadwell qui va tous les étés pendant 10 ou 15 ans, je ne sais plus. Séjourner en Alaska, à un endroit où il y a une réserve de grizzlies. Et donc, effectivement, il veut soutenir la cause des grizzlies, sensibiliser le monde, et notamment les enfants de Californie, où il vit le reste du temps, à la protection des grizzlies, à quel point les grizzlies sont des animaux extraordinaires, admirables, magnifiques, etc. Mais c'est aussi beaucoup un prétexte pour lui pour y aller. Et il est, ce Treadwell, dans une sorte de chose où il se voit comme la seule garantie de la protection des grizzlies, donc comme s'il était le rempart contre les menaces que subissent les grizzlies, et comme une chose d'identification. Il y a une séquence assez folle où il y a une crotte de grizzly qu'il voit, et puis il va la toucher et il trouve incroyable que c'était dans le corps du grizzly. Donc il est vraiment dans un désir de fusion. Ouais. Si ce n'est que, et c'est aussi là où Herzog est dans une confrontation avec lui, si ce n'est qu'il est dans une sorte de vision de la nature très que Herzog qualifie un peu de Disneyenne, je pense, quelque part. Voilà, où il...
qu'il la condamne complètement, oui, de son point
de vue. Ah oui, alors Herzog et Treadwell, ce personnage de Grizzly Man, sont totalement en désaccord avec la vision des animaux, avec la vision de la vie sauvage, etc. Et donc, il y a une vision un peu Disneyenne, où les grizzlies sont des gentils grizzlies, des gentils individus, etc. Et ce n'est pas du tout la vision d'Herzog. La vision d'Herzog, c'est vraiment la nature et les grizzlies, c'est pour lui un espace du chaos. Bon, ce qui est aussi très fort discutable, mais voilà, c'est vraiment deux visions qui se confrontent. Mais en même temps, Herzog est à la fois tout à fait fasciné par le personnage de Treadwell, qu'il trouve à la fois infantile, agaçant, mais vraiment captivant. Aussi parce que il est captivé par les images que fait Treadwell. Et les images que fait Treadwell, à plusieurs reprises, dans le montage que Herzog en fait, on voit que il les montre comme des vrais plans de cinéma et pas comme des plans de documentation au caméscope pour quelque chose qui pourra éventuellement être montré à du public, mais même pas sûr. Et c'est vraiment cette relation conflictuelle mais fascinée qui se joue dans ce film, et la manière dont Herzog se met en scène comme quelqu'un qui reçoit cette histoire et qui transmet cette histoire dans le film est incroyable. Ouais. Il y a cette séquence qui est à la fois très dérangeante et un peu sidérante, où, en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que Timothy Treadwell, donc, il filmait beaucoup ses séjours auprès des grizzlies, qui, à cet endroit-là, c'est toute l'ironie tragique de l'histoire, à cet endroit-là, les grizzlies ne sont pas menacés, ouais. Et à la limite, la présence de Treadwell sur place accoutume plutôt les grizzlies à la présence humaine, ce qui est plutôt préjudiciable, parce que si un jour il y a des braconniers qui viennent, les grizzlies ne se barreront pas en étant effrayés, mais ouais. Voilà, n'assisteront pas à la présence humaine avec une menace. Bref. Et il filme beaucoup, et un jour, il se fait attaquer, lui et sa petite amie, par un grizzly qui les bouffe, ouais. Et il meurt. Et la caméra tournait à ce moment-là, et donc c'est enregistré.
La caméra tournait avec un cache.
La caméra tournait avec un cache, et le son est ouais. enregistré. Et y a un moment, il est question de cet enregistrement dans le film. Et on se dit, non, il va pas nous le lancer quand même. Et il y a cette séquence incroyable où il ne lance pas, on ne l'entend pas, mais... on le voit attablé avec le casque sur les oreilles. Et face à lui, il y a la meilleure amie de Timothy Treadwell, qui est comme un peu son héritière, qui est la personne qui vraiment son héritière spirituelle un peu.
Et qui a récupéré son matériel.
C'est elle qui a récupéré tout son matériel, etc. Et elle est face à lui, et elle est dans un état de bouleversement incroyable, et il y a une caméra qui les filme, et nous, on voit ça. Et il écoute, on le voit écouter, il est de trois quarts d'eau, et il enlève le casque, et il lui dit, mais il nous le dit aussi, n'écoutez jamais ça. Et c'est à la fois d'une cruauté et d'une perversion un peu folle, mais il y a cette situation qui est incroyable de... on est là en train de voir la réaction de quelqu'un qui n'entend pas, mais qui voit quelqu'un écouter. Et il y a cette bande-son dont on sait qu'elle existe, dont on sait qu'elle va être un peu comme ces carnets, d'une certaine manière, ces carnets de tournage de Fitzcarraldo, dont on sait que c'est de l'ordre du quasiment... inaccessible, inenvisageable, etc.
Mais lui, insoutenable.
Mais lui, d'une certaine manière, il le prend en charge sur lui. Ce qui est une espèce aussi de truc de mégalomanie et de Werner est un surhomme, etc. Mais c'est une séquence véritablement à la fois hyper flippante, dérangeante, etc. Mais c'est c'est un moment de cinéma assez sidérant.
C'est assez extraordinaire, et puis c'est vrai qu'il y a ce suspense, puisqu'on le connaît, on se dit il est capable, peut-être il est capable de nous faire écouter ce...
Ouais. Et oui, parce que comme Werner Herzog n'est pas du tout un cinéaste moral, ouais. On se dit,
oh, ça se trouve,
il va vraiment nous le balancer. Ouais. Et je connais plusieurs personnes. J'étais avec des collègues cette semaine, et puis on a parlé un petit peu du fait que j'allais faire cette émission. Et donc on a parlé de quelques films de Herzog. Et à un moment on a parlé de cette séquence. Ça me l'a pas mal rappelé en discutant avec eux. Mais un collègue qui était persuadé que à un moment il le diffusait vraiment. Ouais. C'est-à-dire que Il nous le fait presque entendre, finalement. Ouais, ouais. On ne l'entend pas du tout, mais il nous le fait presque entendre. Et on a l'impression qu'on a été traversé par ça, quand même. C'est ce qui est incroyable.
Alors, c'est une scène très marquante qui a d'ailleurs été parodiée alors, dans un film qui est extraordinaire. Alors, vous connaissez sûrement Tonnerre sous les tropiques, qui est un film de fiction de Ben Stiller qui s'inspire du tournage de
Apocalypse Now,
mais aussi un petit peu finalement de Fitzcarraldo, ce genre de choses. Et bien en fait, alors le film est très drôle, mais en plus il y a un faux making-of du faux film.
Ah, je ne l'ai pas vu.
Qui s'appelle Reign of Madness.
J'ai vu le film et pas le making-of.
Bah, c'est sur Internet, Reign of Madness, et c'est écrit tourné et surtout interprété par Justin Theroux, qui est un acteur assez sérieux qu'on a vu chez Lynch, etc.
Ah ouais. Et dans aussi un acteur The Leftovers.
Comme... Ouais, voilà. Mmh. Et donc il joue en fait une version de Werner Herzog avec un accent allemand et des culottes de peau bavaroises. Et donc il se filme en train d'écouter même chose, donc l'enregistrement sonore de quelqu'un en train de mourir, dans le faux film qu'ils sont en train de tourner dans Tonnerre sous le tropique. Et donc on le voit en train de vomir directement et de continuer à regarder pendant 4-5 fois. Et le film est extraordinaire, c'est une des meilleures parodies de Herzog que j'ai jamais vu.
Ah, mais il faut que je la voie, je ne l'ai pas vu.
Voilà, donc,
c'est drôle, effectivement, tu parlais tout à l'heure de le moment où Herzog s'auto-parodie dans les choses dans lesquelles il joue, il est aussi très drôle dans cet endroit-là.
Alors, on va faire une courte page musicale, mais je tiens juste à rappeler que toi aussi, tu as rencontré un ours polaire quand même.
Oui, c'est vrai.
Et c'est relaté dans Churchill, Manitoba.
Beaucoup plus prudemment que Timothy Treadwell.
Oui, heureusement pour toi. Courte page musicale donc avec les Statesmen qui chantent « Lord, I want to go to heaven ». Alors, ce n'est pas la version qui est entendue dans le film « Fric et foi », qui est un téléfilm documentaire donc, de Herzog sur... un télé-évangéliste américain cinglé. Voilà. Mais c'est une belle chanson. Et on se retrouve tout de suite après. Et de retour dans 100 ans de cinéma avec notre invité Anthony Poirodoux pour parler du cinéma de Werner Herzog. On vient de parler de Grizzly Man, mais parlons d'un autre film, alors cette fois-ci pas documentaire, mais de fiction qui t'a marqué. Et c'est un film qui s'appelle L'énigme de Caspar Hauser, donc qui est plutôt dans la première partie de sa filmo.
Oui, c'est un film des années 70. 74, peut-être, je suis plus sûr de l'année, des années 70, dont le titre allemand est très beau. Alors, bon, j'ai fait allemand LV2 au collège et au lycée, mais je ne me risquerai pas sur l'accent, ce qui veut dire chacun pour soi et Dieu contre tous.
Alors, moi, je le tente parce que j'ai aucune. je m'en fous. Jeder für sich und Gott gegen alle. Alle, pardon. Donc, voilà.
C'est un très beau film. C'est un film à la fois qui est dans une autre veine. dans une veine plus... moi, il y a quelque chose qui est très saillant chez Herzog, c'est sa dureté, c'est sa violence, etc. Ce qui participe de la fascination qu'on peut avoir pour ces films, hein, c'est la violence de ces gestes de cinéma. Et puis, moi, je dois dire, les années passant, ça me pose un certain nombre de questions, ça me pose aussi problème, ça me dérange quelque part, ça n'épuise pas la puissance que je reconnais à son cinéma et le fait que c'est un cinéma extrêmement marquant pour moi, mais ça me pose quand même des problèmes. Et le fait que Kinski soit l'acteur fétiche de Herzog, quand on sait que Kinski était véritablement quelqu'un d'extrêmement violent, véritablement quelqu'un c'était vraiment une ordure, quelqu'un qui a violé sa fille aînée, qui a une histoire de violence conjugale incroyable, incroyablement sinistre et terrible. Bref, donc voilà, le Paul Kinski de Herzog, il est aussi douloureux à aborder à ce niveau-là. Mais il y a un autre acteur très marquant de Herzog qui s'appelle Bruno S. Je crois que c'était Bruno Strosek, son nom à l'état civil. Acteur allemand qui est mort il y a une dizaine d'années, je crois. Qui était un marginal, un peu doudingue, que Herzog a rencontré, je ne sais plus, j'ai oublié. Et avec qui Herzog a fait deux films. La balade de Bruno, c'est le deuxième, et le premier, c'est Kaspar Hauser. Alors Kaspar Hauser, c'est l'histoire de une histoire réelle qui s'est déroulée dans l'Allemagne du 19e siècle, je crois, d'une personne dont on n'a jamais connu l'origine, mais qui a grandi jusqu'à, je ne sais plus quel âge, mais 18 ans environ, enfermé dans une cave, dans une pièce de manoir, etc. Et on venait le nourrir, mais il n'avait aucun autre lien social que le fait qu'on venait le nourrir. Et donc il n'a pas appris à parler, il n'a pas appris à vivre en société, etc.
Il n'a pas appris à marcher.
Il n'a pas appris à marcher, il a rien appris de ce que pourrait apprendre un humain en vivant auprès de ses semblables. Et donc il finit par soit on le libère, soit il s'échappe. Et puis on le trouve dans une petite ville allemande et il est recueilli. Et il est recueilli par des gens plus ou moins bienveillants, certains qui le voient comme une curiosité un peu insolite ou voilà. Et donc on essaye de le civiliser.
Oui, puis c'est la grande. Enfin, c'est après le 18e, la grande période du mythe du bon sauvage.
Alors, etc. Tout à fait. Et puis, on a ce cas extraordinaire d'un être humain qui n'a pas du tout. Qu'on a à l'état.
Brut.
À l'état brut, alors qu'il est adulte. Et donc, on essaye de le civiliser, de le christianiser, de lui apprendre à parler, etc. Voilà, donc Herzog filme comme une fiction, et il en écrit un scénario, etc. Et donc c'est à ce Bruno S. qu'il confie le rôle. Et c'est un film beaucoup plus... où on voit que, pour le coup, Herzog n'est pas du tout dans une relation d'hostilité ni à son personnage ni à son acteur. Il n'est pas du tout là pour en découdre avec lui. Il a un regard extrêmement compatissant sur lui. Et je trouve que c'est un film qui articule d'une façon assez merveilleuse deux pôles dans le cinéma d'Herzog. Un pôle qui est celui de l'enfermement. Il y a plusieurs films qui sont avec des personnages qui sont vraiment dans une situation d'enfermement, soit parce qu'ils n'ont pas de langage, soit parce qu'ils n'ont pas de... il leur manque des sens, soit parce qu'ils sont en prison, etc., etc. Et un pôle beaucoup plus lumineux qui est une sorte de possibilité d'accès extatique à des visions merveilleuses. Et il se trouve que ce Kaspar Hauser, dans le film d'Herzog, il se retrouve dans cette petite ville allemande avec des gens qui essayent de l'éduquer, etc. Il est bien mieux traité que là où il était auparavant, mais il est malheureux. Il se trouve dans un monde très, très étroit, alors que peut-être C'est quelqu'un qui s'était à peine ayant à peine été déterminé comme un individu, était dans une sorte de relation au monde beaucoup plus ouverte. Mmh. Voilà, c'est un peu ce que raconte ce film. Mmh. Et il a des visions. Et il a des sortes de visions du désert qui sont des visions un peu floues, un peu lacunaires. Et puis, il est mourant, il finit par mourir. Et puis, on lui demande, il est entouré de gens qui prient à côté de lui, voilà. Et on lui demande, voilà, est-ce que tu veux nous dire quelque chose avant de mourir pour soulager ta conscience, etc. Et il dit, oui, j'ai un début d'histoire à raconter, mais je connais que le début. Et il raconte l'histoire, et on voit sa vision, d'une caravane berbère dans le désert. Et il va de soi qu'il n'a jamais vu le désert de sa vie, Kaspar Hauser, qui est guidé par un berbère aveugle. Et ils sont perdus. Donc ils essayent de s'orienter avec des instruments. Des boussoles, des cartes, etc. Mais ce que leur indiquent les instruments, ils comprennent que ce n'est pas une bonne direction. Ils disent « allons vers les montagnes plutôt ». Et le berbère aveugle leur dit « non, ces montagnes sont un mirage, donc il ne faut pas éviter cette direction, il faut la suivre ». Et donc c'est l'aveugle qui voit. Et c'est Kaspar Hauser, l'empêché, l'inadapté, etc., l'associable qui voit et qui nous délivre cette vision, à la fois comme son bien le plus précieux et comme un éclat du paradis, quoi. Mmh. Et cette articulation entre ces deux pôles-là est, je trouve, assez magnifique dans ce film. Et puis ce film a une sorte d'humanité et de compassion qui est vraiment superbe. C'est vraiment un film que j'aime énormément.
Ah oui. Tu parlais des visions, alors c'est intéressant puisque il y a souvent des visions comme ça, des rêves, alors que bon, Herzog, d'après lui, ne rêve pas, bon, ça, on y croit ou pas, mais il y a toujours voilà, ces questions de vision, etc. Et même si certains de ces films, voire pas mal d'entre eux, peuvent s'accompagner assez... avantageusement, je pense, de certains psychotropes, comme ça a pu être le cas, en tout cas, genre de Fata Morgana, lorsqu'il est sorti en salle dans les années 70, ça cartonnait pour ça.
J'imagine Cœur de verre peut s'y prêter aussi, par exemple.
Ouais. Un film, voilà, où il a hypnotisé tous ses acteurs.
Avec des acteurs sous hypnose, ouais.
Et par contre, lui-même est absolument pas du tout adepte des drogues ou du mouvement hippie, etc. Il s'oppose même un peu à ça, comme justement des doux rêveurs qui n'ont rien compris qui sont, finalement se mettent en danger, etc.
Oui. Pour lui, le rêve et les visions, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Ouais.
Voilà. Et puis, alors bon, ensuite, quand il va avoir ce regain de popularité aux États-Unis suite à Grizzly Man, il va aussi continuer à faire des fictions et tourner avec des acteurs un peu cinglés, comme Christian Bale, Nicolas Cage, Michael Shannon. Et donc, voilà, finalement, mais un petit peu plus soft quand même, heureusement, que Kinski. Ouais. Bah, ça touche à sa fin. Voilà, merci beaucoup, Anthony Poirodeau, d'avoir participer à notre émission 100 ans de cinéma sur Werner Herzog. Et donc, rendez-vous,
on l'espère voilà, début juin.
Pour Apollen, donc pour une soirée projection de film de Herzog. Vous en saurez plus sur le site de Bifurcation. Sinon, ça sera en novembre, mais ça se fera quand même. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. On doit quitter l'antenne parce que c'est comme ça, c'est toujours très court. Avec un extrait de la bande originale, justement, de Bad Lieutenant, Escale à la Nouvelle-Orléans, avec Nicolas Cage, l'un de ses excellents films de Herzog, et surtout très drôle. Dans un mois.
Merci Alexis, merci à tous.
Merci. Me, oh, let me go. Oh, yes, you see, I don't love you anymore. No, no, to leave.
If you don't need me, if you don't want me, oh baby, why don't you just let me love again? Oh, let me love again.